10 de Québécois. Bonjour Charles.
Bonjour Gabriel.
Épisode 10, on a décidé aujourd'hui qu'on allait faire un retour sur les 9 premiers épisodes. On est un peu content du parcours qu'on a fait.
Oui, d'autant que 10 est un chiffre satisfaisant. Hey, les top 10, les meilleurs 10 à faire, c'est toujours top 10. Fait que le temps était approprié pour revisiter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis les sujets qui ont été abordés jusqu'à maintenant.
Ouais.
Alors, pourquoi pas au 10e épisode?
On est extrêmement content de l'accueil que vous nous avez réservé, même si vous n'êtes pas tout le temps d'accord. En fait, on aime ça quand vous n'êtes pas d'accord. Fait que juste pour vous parler un peu les 1500 personnes qui nous écoutent depuis le début, qui reviennent régulièrement nous écouter. On a regardé avant de commencer d'enregistrer ce soir, moi puis Charles, les statistiques sur le site web. On est vraiment, vraiment impressionnés. On ne s'attendait vraiment pas à ça.
Puis, de toute façon, ce serait plate si tout le monde pensait pareil.
Exactement.
Ça met un peu de piquant dans le quotidien quand les gens ne sont pas d'accord et surtout sont capables d'articuler leur désaccord d'une façon civilisée. Comme ça, on n'a pas à se taper sa gueule.
Oui. Fait que les gens comme Luc Leclerc et compagnie, on vous aime beaucoup, on est content que vous êtes là, même si on n'est pas tout le temps d'accord, ça fait notre affaire, et on espère que vous allez continuer.
Mais ultimement, si on prend ça plus sérieusement, c'est qu'au Québec, ce qui nous a motivés à démarrer Québécois, c'est qu'on trouvait qu'il y avait un vide au niveau du débat, hein, de pouvoir avoir une conversation ouvertement, sans tabou, puis de pouvoir aborder des sujets qui sont souvent difficiles.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, l'épisode, c'est un peu pour voir à quel point on n'a pas hésité à aller se mouiller dans des sujets qui sont controversés, qui sont tabous un petit peu, qui sont difficiles parce qu'ils ont une forte charge émotive bien souvent. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui est positif pour le Québec.
Ça manque de notre société. On peut le constater en regardant n'importe quel fil de commentaires sur les articles de nos journaux, de nos commentateurs québécois. Les gens s'emportent rapidement, les insultes sortent à droite et à gauche, on insulte la qualité du français, on fait des petites prières au Jésus. Puis je trouve que ça ajoute rien au débat. Les gens, ils s'en vont y promener ou ils s'écoutent pas. On ne va jamais régler nos problèmes de société si on n'apprend pas à s'écouter, puis si on n'apprend pas non plus des autres personnes. Parce que peut-être la personne qui a une idée qui est complètement à l'opposé de ce que je pense, elle a peut-être raison. Fait qu'on se doit de rester ouvert.
Puis même si vous n'êtes pas d'accord avec l'autre personne, si vous arrivez avec l'approche que cette personne-là peut quand même vous apporter quelque chose, elle peut quand même contribuer à enrichir votre compréhension du monde, alors l'échange va être par définition gagnant pour tout le monde.
Ouais,
et ce qui est intéressant aussi, c'est de plus en plus avec les médias sociaux, on vient compartimenter nos sources d'informations. Et ça fait un peu un lien avec la chambre d'écho de Google dont on a parlé, où les gens ne sont jamais exposés à des opinions divergentes. Et puis moi, Gab, on s'est fait décrire comme étant à la fois des conservateurs, des gauchistes, à gauche, à droite, puis en quelque part, c'est positif parce que ça montre qu'on a tenu simultanément, du moins, des positions ou du moins qu'on a relayé de l'information qui était répandue assez largement sur le spectre d'opinion politique. Et je pense que c'est ce qu'on cherche à faire, de pouvoir offrir un contenu nuancé. Évidemment, j'ai mon biais au niveau économique, j'ai mon biais au niveau juridique. On a tous nos petits pet peeves, mais je suis transparent par rapport à ça. Ouais,
je pense que, Charles, t'es clairement plus à droite que moi sur l'économie.
Oui.
Puis du point de vue juridique. Moi, j'ai tendance à être plus à gauche sur ce côté-là. Point de vue social, je pense que toutes les deux, on est en quelque part dans le milieu, plus ou moins, des fois à gauche, des fois à droite. J'ai un problème moi, avec cette nomenclature-là, gauche, droite, centre. Je comprends pas pourquoi on s'oblige à se mettre dans des boîtes bien étiquetées. On se le met dans le front, c'est gauchiste, droitiste, centriste. On peut tout juste avoir des opinions puis réfléchir à ce qui se passe. Pourquoi je serais d'accord avec tout juste parce qu'on met un label de gauche dessus? Je trouve qu'on peut tomber facilement dans le populisme puis dans le manque de réflexion.
Ben, je dirais que présentement, ça va plus loin que ça. Et on va même jusqu'à glorifier les étiquettes. Ben oui. Et c'est comme ça qu'on assiste à l'émergence de groupes identitaires, comme par exemple les Black Lives Matter et compagnie. Ce sont des gens qui glorifient des identités ethniques.
Exactement.
Et ça rentre dans ce qu'on appelle les... En français, ça ne se traduit pas très bien, mais en anglais, c'est « identity politics
».
Politique identitaire, là, c'est qu'on va jouer sur des facteurs, par exemple, l'orientation sexuelle, le sexe, le genre, l'origine ethnique, puis on va compartimenter les gens de cette façon-là et on va leur attribuer des positions homogènes. Et ça nous amène assez bien sur le premier sujet.
Ben, exactement, oui.
Au Québec, nous allons tenir une commission d'enquête sur le racisme systémique. Et c'est quelque chose qu'on avait un peu évoqué durant le premier épisode. Sur, si on se souvient, là, sur
la fameuse parade de Saint-Jean. Là.
La parade de la Saint-Jean, Baptiste.
On peut-tu pas avoir une parade à Montréal sans causer toute une émeute?
Une parade à Montréal, il y a quelque chose avec ça.
Il y a vraiment quelque chose.
Mais toujours est-il que cette commission-là, on répète sur le racisme systémique. Ça, c'est un buzzword qui revient souvent. Et personnellement, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va sortir parce que, a priori, je ne vois pas où est le système érigé par l'État ou une organisation suffisamment importante pour discriminer des gens.
Je pense pas que le racisme systémique, c'est le bon mot pour ce qui se passe. Je pense que c'est une fausse nomenclature ou je sais pas comment tu pourrais dire ça. Là. Je pense pas que le gouvernement a une mission cachée ou un système en quelque part qui fait qu'il y a du racisme inhérent dans la fonction du gouvernement et et du Québec ou même du Canada. Je pense pas que ça existe. Moi, par contre, je pense qu'il y a certainement du racisme. J'ai trop de gens dans mon entourage qui en ont été victimes. J'en ai entendu, j'en ai vu moi-même. Mais de là à dire que c'est systémique, je suis pas convaincu. C'est pour ça que je suis curieux de voir qu'est-ce qui va sortir de cette commission-là. Puis ce que je trouve qui est dommage, c'est que... tu fais allusion à la commission secrète, là, c'est ça?
Oui, bien, celle qui va se donner à porte close.
Ouais.
À mon avis, c'est un peu regrettable et...
60 millions que ça va coûter, cette
affaire? Non, je pense pas qu'on a eu... On a eu les chiffres.
Pour ça, de toute façon, ça va coûter 60 millions.
Oui, c'est autochtone, on va y venir. Mais de toute façon, ça se chiffre toujours en dizaines de millions de dollars, les commissions d'enquête. Là. Mais à porte fermée, cette histoire-là. Alors là, on va regarder la société québécoise derrière des portes closes. Pour une fois, je suis d'accord avec Amir Kadir. Je partage peu d'opinions avec lui, notamment sur l'économie ou le rôle de l'État. Mais aujourd'hui...
Il faudra marquer ça dans le calendrier, là.
Oui.
T'as trouvé enfin un point en commun avec Amir Kadir.
Mais aujourd'hui, il a fait une sortie dans laquelle il déplorait que la commission se ferait sous porte close. Ouais. Peut-être qu'on est d'accord pour des raisons différentes. Moi, c'est parce que je veux que les idées, particulièrement les mauvaises idées, se ramassent sur la place publique pour qu'on puisse bien en rire.
Oui.
Qu'on puisse surtout les critiquer et qu'on puisse les challenger dans leur fondement. Parce que sinon, les idées... Si on n'est pas capable de les entendre, ben on ne sait pas qui les pense, combien ils sont, c'est quoi leur motivation. On ne sait rien. On est dans le noir.
Ça fait penser à la commission Bouchard-Taylor.
Oui, un excellent moment de télévision.
Un excellent moment de télévision où on a pu entendre la famille Caron.
Non, ça, Pinault-Caron, c'était plus tard.
C'était plus tard?
C'était pas à Bouchard-Taylor.
Mais c'était... Où est-ce qu'ils sont... pas Bouchard-Taylor, Charbonneau? Non.
Non, c'était la commission avec qui était présidée par, je pense, Cédric Ville, ou du moins qui était la personne qui posait les questions. C'est le temps où le PQ était au pouvoir.
En tout cas, on se souvient de cette belle commission.
Oui, les Pinault-Caron étaient bien ridiculisés.
Les Pinault-Caron qui sont allés se promener en Musulmanie. Là, si vous voulez bien rire, tapez dans YouTube les Pinault-Caron en Musulmanie. Vous allez entendre quelque chose d'assez spectaculaire.
Mais autant leur position était... assez intéressante, hein, pour le moins qu'on puisse dire. Mais qu'est-ce que ça a eu comme effet? ça a fait en sorte qu'une large quantité de la population a pu y être exposée, porter un jugement et surtout regarder comment les autres y réagissaient. Exactement. Puis on a collectivement trouvé une forme de consensus là-dessus. Ouais. À l'effet que l'opposition était un peu ridicule.
Ouais.
C'était positif. Oui, on a eu l'air un peu cave, mais ce qui est ressorti de tout ça, on a un peu grandi, je pense. Même chose avec la commission sur les accommodements raisonnables. Il y a eu bien du linchal qui s'est lavé en public. Ouais, c'était souvent pas très chic, hein? C'était un peu disgracieux. Mais au final, on a pu avoir une conversation ensemble. Tout le monde ensemble, là, tout le monde avait son opinion, il y avait des tribunes là-dessus, ça jasait. Puis c'est par la conversation qu'on arrive à s'entendre.
C'est pour ça que c'est dommage qu'ils vont faire cette commission-là sur le racisme systémique à huis clos.
Peut-être qu'ils ont des bonnes raisons qui n'ont pas été encore exprimées dans les médias. J'aimerais ça en savoir davantage parce que...
On ne saura pas, c'est fermé.
Non, mais je parlais des raisons. Mais peut-être qu'ils vont revenir, du moins j'espère qu'ils vont revenir sur leurs décisions, ouais. Puisque...
Les politiciens n'ont pas besoin de raisons. Ils font ce qu'ils veulent.
Ouais, peut-être qu'ils voulaient éviter justement... que des gens entendent des propos qui puissent les vexer ou les heurter dans leurs émotions. Puis si c'est ça la raison, si c'est pour préserver les gens fragiles d'entendre des choses qui pourraient les fâcher, je trouve que c'est une très mauvaise raison.
Moi, là, je veux dire, je commence à être tanné d'entendre parler des gens fragiles. Ou ouais. Les snowflakes, là, comme...
Hashtag triggered.
Ouais, parce que je suis en train de me demander si c'est pas un fil ou une histoire qui est racontée ou amplifiée un peu par les médias pour satisfaire à leurs besoins de générer des clics puis des likes. Parce que je comprends pas là, que tout d'un coup, on est si facilement triggered que ça. J'arrive pas à le comprendre. Faut qu'on soit capable de parler de ces choses-là sans que tout le monde capote.
Oui.
Puis en regardant la façon que les gens discutent dans les sections de commentaires, OK, il y en a peut-être qui exagèrent, là, point de vue de triggered, mais c'est pas la majorité. La majorité est capable de fonctionner là, sans s'énerver parce que l'autre a dit une affaire qu'il a pas aimé. Donc, après le racisme puis la fameuse parade de Saint-Jean...
Qui était un sujet quand même assez aride pour commencer un podcast. Écoute,
ça a été direct. Hein, on a vraiment foncé dans le tas. Puis après ça, on s'est mouillé les pattes dans la gentrification. Puis ça a été une autre affaire qui nous a carrément... Si on parle en termes normaux, on se mettait à la droite. À la gauche. Parce que à la droite ou à la gauche? On se mettait à la droite parce qu'on était pro-gentrification, en fait. Je pense que moi et Charles, on a trouvé toutes sortes d'arguments pour pour justifier, en fait, le pourquoi de la gentrification. Que c'est, en fait, on comprenait pas toutes les campagnes de salissage qui sont faites par les gens qui sont contre la gentrification et qui utilisent la violence pour faire amener leur point.
Et puis, chaque fois que ces groupes-là font une manifestation, ça vire à l'émeute, systématiquement. C'est un peu grotesque, en fait, à regarder ça aller, parce que c'est des gens qui, supposément, veulent protéger le citoyen, mais par le fait même, détruisent son milieu de vie. Je comprends pas trop leur motivation, mais c'est clairement pas aider la population. Ce sont des gens qui sont motivés par une idéologie politique. C'est la même raison pour laquelle je marchais l'autre jour dans la rue, puis il y avait des tracts pro-communistes qui avaient été tapissés sur les murs. C'est encore des idées qui sont encore assez populaires. Hein. Les mouvements anticapitalistes, c'est quand même le meilleur système qu'on a eu jusqu'à maintenant.
Ouais, mais c'est souvent ça que je dis. J'ai une couple d'amis là, qui sont complètement anticapitalisme, antifa, tout ce que tu veux. Puis je leur ai demandé à plusieurs reprises. OK, fine, tu votes pas, tu veux pas faire partie de ce système-là, mais avec quoi on va te remplacer? Là? Suggère-moi là, quelque chose qui a de l'allure. Puis à chaque fois, la réponse, c'est l'anarchisme.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu qui sont en mode opposition.
Ouais.
Ils s'opposent à un système en place, mais ils l'ont pas nécessairement compris dans sa profondeur, puis jusqu'à où il va. Le capitalisme, là, c'est quelque chose de très simple. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais Ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup les gens quand je leur dis. Mmh. C'est tous les pays sont capitalistes.
Ah oui.
Même tous les pays ont des larges quantités de capital. Puis là, c'est de savoir est-ce qui le gère.
Regarde la Chine. Hein? La Chine, ils sont capitalistes au max.
Oui.
Peut-être même plus que nous autres, dans plein milieu d'un des pays les plus socialistes, communistes que tu peux avoir. Mais c'est le quand ils, écoute, leur économie là, est complètement capitaliste en ce moment.
Point, c'est que tous ces gens-là, ces groupes anarchistes qui s'opposent à des gens qui prennent des initiatives individuelles pour améliorer leur quartier, c'est contre-productif. Ils réalisent pas qu'ils se tirent dans le pied. Tous les pays sont capitalistes, tout ce qui change, c'est qui gère les ressources. Moi, je veux que ce soit les gens. Je veux pas que ce soit une autorité centrale qui dicte et qui dirige avec un gun en leur disant « Vous devez faire ça, or else tu vas en prison. »
Puis c'est comme ça qu'on aboutit avec de la gentrification. C'est le même phénomène qui se répète à une autre échelle.
La gentrification, c'est juste des gens qui prennent des initiatives individuelles puis qui disent « Ah, moi, je veux améliorer ce quartier-là, je veux aller y vivre. » Les prix suivent, parce que ça crée de la valeur.
J'ai un problème avec la façon qui fonctionne. Tu veux manifester, fine, manifeste. Mais tu veux faire quelque chose, fais quelque chose. Pitch-toi pas dans la violence puis la destruction de propriété. Il n'y a personne qui va te suivre. C'est Antifa, là, s'il n'était pas aussi cave, écoute, il n'y a aucune raison qu'on ne les supporte pas. Les gens d'être anti-white supremacist, puis anti-fasciste, puis anti-natiste, je pense que la part du monde sont d'accord pour dire que c'est pas des bonnes choses, ces affaires.
On a déjà réglé la question que le nazisme, c'était pas une bonne idée.
Ben oui! Fait que je pense que, tu sais, OK, en quelque part, le fond de la question, ils ont peut-être raison, mais il y a une façon de faire les choses pour faire avancer. Fait que là, ils se positionnent de sorte que les médias, après ça, là, quand ils exposent le problème de Antifa ou des white supremacists, ils les mettent sur le même pied d'égalité, quasiment. Là. Puis là, on se retrouve dans une position où ce que si on défend, c'est pas si on défend, mais si on critique les Antifa, on a presque l'air de supporter des white supremacists. Puis c'est ça qui me chicote dans la tête. Là. C'est comme, ben non, les gars, come on, vous nous mettez vraiment dans une mauvaise position.
Puis même les soi-disant white supremacists, je pense que pour la plupart, là, c'est pas vraiment des gens qu'on peut raisonnablement libeller de cette façon-là.
Moi, je sais pas. Je suis pas sûr.
On aura l'occasion de revenir sur le cas de la meute plus en détail. Là.
Mais regarde, quand tu te fais voir à faire des saluts à la Hitler, puis des...
Oui, il y en a.
C'est pas long. Là.
Mais quand tu regardes le membership croissant des groupes nationalistes de droite... quel pourcentage de ce monde-là est véritablement proche de l'idéologie nazie versus des gens qui ont juste des réserves par rapport aux politiques d'immigration?
Oui.
Hein?
Puis il ne faut pas dire aussi, là, c'est comme y a un article qui est paru là, cette semaine ou la semaine dernière, là, qui ont tout nommé tous les journalistes là, du Québec et du Canada qui sont abonnés au site Facebook de la meute puis de tous les groupes nazis puis anti-white supremacists. Puis tout le monde capote parce qu'ils sont membres de ça. Si j'étais journaliste, moi aussi, mais ça, je veux savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est pas parce que je les suis sur Facebook que je suis d'accord.
Moi, je veux que ce monde-là soit dans les rues parce que je veux pouvoir les compter.
Mais c'est ça, je veux savoir
s'ils sont armés.
Mais oui!
On veut savoir c'est qui, parce que le meilleur désinfectant, c'est le soleil.
Exactement.
Faut que ce monde-là marche dehors, qu'on les regarde,
ouais.
qu'on puisse débattre avec eux.
Ça, c'est un problème que j'ai, ça, avec le point de vue des médias, là, quand ils parlent de ces gens-là. On dirait qu'ils ont peur des nommer, ils ont peur des montrer, ils cachent leur visage dans les photos puis dans les vidéos. Je comprends pas, là. Les Antifa, on les montre, mais les white supremacists, on les cache, ça, j'ai pas compris encore. C'est quelque chose que je critique des médias par rapport à ça. On a eu...
Ben là, on avait parlé des Autochtones.
Des Autochtones.
Puis ça, c'est un sujet intéressant parce qu'on a essayé d'expliquer comment ça se fait que c'est aussi difficile pour les communautés autochtones du Canada d'élever leur niveau de vie au même niveau que celui des autres Canadiens. Bon. Puis on a exploré la piste, au fond, que le droit qui protège les réserves, hein, qui est en vigueur depuis plusieurs centaines d'années, est en réalité ce qui un peu leur tire dans le pied. puisque ça empêche le développement économique sur leurs réserves. Même si c'était initié par eux, même si ça venait de l'intérieur, là, c'est pas possible de faire du commerce de façon raisonnable sur une réserve. Ils sont condamnés à recevoir de l'argent du fédéral.
Ouais.
Puis, il y avait une excellente chanson de Félix Leclerc. J'ai plus le titre exact, mais c'est au fond, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. Et quand une communauté est devenue apathique, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire quoi que ce soit de productif, ça devient difficile ensuite de faire autre chose. Et quand on regarde des problèmes de consommation d'alcool, de toxicomanie, les taux de suicide, la violence dans leur communauté, les communautés autochtones se portent vraiment pas bien.
Mm-hmm.
C'est vraiment pas beau en ce moment. Quand on regarde...
Puis ils se l'avouent eux-autres mêmes.
Oui, ils représentent un faible pourcentage de la population, mais sont largement surreprésentés dans les victimes de crimes.
Oui, puis ils font, c'est une grande population qui est emprisonnée aussi.
Aussi, quand beaucoup d'itinérants.
Ouais.
Il y a plein de problèmes. Alors, puis c'est pas juste une question de discrimination. Il y a aussi...
Ça, c'est vrai. T'as juste à te promener au centre-ville de Montréal, puis il y a vraiment une disproportion d'autochtones qui sont itinérants. On les voit, là. La rue, c'est comme la moitié, on a l'impression, tellement il y en a.
Puis c'est pour cette raison-là que le gouvernement fédéral a accepté de créer une commission d'enquête sur les femmes autochtones victimes de violences.
Mm-hmm.
Ça part d'une bonne intention, hein? Puis surtout...
Mais il y a aussi le fait qu'il y a tout un mouvement derrière ça, là, qui pousse. Là.
Oh oui, les féministes ont beaucoup de pouvoir et on va, à mon avis, surreprésenter...
les féministes.
Oui, ben ce sont des gens intéressants quand même. On a eu l'occasion de discuter.
Non, intéressante.
C'est vrai. Mais.
Trompe-toi pas de gens, tu vas te faire mettre en prison, toi.
Tu sauras qu'historiquement, le masculin, c'était le genre neutre.
Ouais, mais attends.
Bon.
Ça n'existe plus, ça.
C'est... Toujours est-il qu'on va avoir une commission d'enquête. Mais moi, j'ai rien contre une commission d'enquête. Bon, ça coûte cher, ça sert généralement à rien. Mais si ça peut nous en apprendre davantage sur les causes,
ouais.
Ben, pourquoi pas? Mon seul problème avec cette commission-là, c'est que ça va coûter, à date, là, selon les prévisions, puis ça va probablement coûter plus cher, près de 60 millions de dollars pour écouter environ 300 témoignages de femmes. Mais quand on regarde les statistiques, il y a le professeur Adam Jones de l'Université de Colombie-Britannique qui s'est beaucoup intéressé à la question, qui a compilé beaucoup de données disponibles sur Statistique Canada. Là, c'est tout gratuit, guys. Allez-y. Les journalistes, là, lâchez-vous lousse. 71% des victimes de violences sur les réserves sont des hommes. Pourquoi est-ce qu'ils sont exclus de la commission d'enquête? Pourquoi on ne pourrait pas faire une commission d'enquête sur les Autochtones? Pourquoi ça doit être sur les femmes autochtones?
Parce qu'ils ont crié plus fort que toutes les autres. Ça fait combien d'années là, qu'on entend parler des femmes disparues, violées, etc.?
Mais elles sont minoritaires, et d'autant plus que la majorité des criminels sur les réserves sont d'autres Autochtones. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à étudier, mais qui ne le sera pas. Puis au prix que ça coûte, j'aurais espéré qu'on ait un portrait.
Ça coûte 200 000 piastres la personne.
Oui, ça coûte cher. Hein?
60 millions divisé par 300 invités, ça coûte ça veut dire 200
000. Ouais.
C'est un speech de femme autochtone en ce moment, ça vaut 200 000 piastres.
À ce point-là, on devrait tout le racheter à Tim Hortons. Hein, ça...
Non, mais...
Mais c'est qui l'humoriste qui avait dit ça? Je pense que c'est Jean-François Mercier. As-tu déjà vu un Tim Hortons faire faillite? C'est rare. Hein?
C'est assez rare, j'avoue. Ouais.
Mais ce serait probablement considéré comme la cultural appropriation. on y reviendra, la cultural appropriation.
Alors, j'ai hâte qu'on trouve une façon d'avoir...
Ah, ben, ça va se présenter.
C'est un sujet qui me fascine,
c'est
la
sûr.
Cultural appropriation.
Mais toujours est-il que les Autochtones, on va avoir un portrait au mieux incomplet, puis au pire, inutile.
J'espère que t'as tort. J'espère là, qu'ils vont faire ça comme du monde, puis qu'ils vont nous arriver avec un beau rapport là, l'année prochaine, tout bien écrit, avec des beaux paragraphes, puis qu'ils vont nous trouver toutes les solutions du monde. Mais j'ai des doutes, parce que comme tu dis, ça va être incomplet. Tu peux pas résoudre la problématique autochtone en seulement en parlant aux femmes.
Ben, c'est sûr, c'est une évidence. Et surtout, moi, c'est encore une fois... le contribuable paie pour avoir de l'information, pour régler un problème, est-ce que ces sommes d'argent-là vont véritablement être utilisées pour régler un problème? Ou c'est juste se flageoler un petit peu en disant « Hey, qu'on est donc pas fin, on s'excuse, voilà plus d'argent, on va augmenter, là, vous êtes à 11 milliards, probablement, le ministère des Affaires autochtones, on va monter ça à 15 pour s'excuser encore plus.
Ouais. » Mia culpa, mia culpa.
Il faut trouver une solution. Et je pense pas que la solution passe par leur domper plus d'argent.
Ouais.
C'est poche à dire, mais la dignité humaine, là, ça, on l'a dit, la gauche et la droite devraient s'entendre là-dessus, c'est le travail.
Ça fait combien de temps là, qu'on leur dompe de l'argent? Là? Je pense qu'on sait que ça ne marche pas. Faudrait commencer à regarder d'autres solutions. Dire,
beaucoup d'argent qui est versé est pour le respect de traités. Donc, on utilise le territoire en vertu de traités qui ont des centaines d'années. Donc, on leur verse une forme de redevance.
Vous avez pas vu, là, mais je me roule les yeux bien fond dans le fond de la
tête. C'est ça qui est ça. Mais toujours est-il que il faut pouvoir mobiliser ces gens-là. Puis Trudeau père, on l'avait mentionné, avait essayé de le faire, avait essayé de les rendre canadiens pour qu'ils puissent avoir les mêmes opportunités que les autres. Ça n'avait pas passé. Il y a eu le mouvement Idle No More qui avait commencé à se mobiliser pour avoir de meilleures chances dans la vie. C'est beau les jeunes, mais retournez-vous aussi vers votre communauté. Parce que ça se peut que le travail doive commencer par là, plutôt que de tourner vers Ottawa.
Ouais.
Mais bon, je ne suis pas spécialiste de la question, je ne prétends pas avoir raison. Si les auditeurs qui sont très bien ferrés sur la question, je serais ravi d'en entendre parler. Mais de mon regard, de ma perspective, je ne vois pas comment on peut arriver à une solution durable sans responsabiliser. Avoir des droits, c'est beau, mais ça ne dit pas que ce que tu fais de la vie. Avoir des droits, ça ne donne pas un sens à ton existence. C'est des responsabilités. Prendre le poids de quelque chose sur les épaules, puis dire « je vais prendre ça en charge, je vais le régler ». C'est comme ça que tu te construis une société.
Ouais.
C'est avec du monde qui assume le poids de leurs décisions.
Absolument. En parlant de poids de leurs décisions, le gouvernement du Canada, cet été, a fait un cadeau à Omar Khadr. Ça, oui. C'en est un autre épisode que...
Ça a bien roulé, ça, aussi.
On a vu un peu de... Je sais pas si je veux dire le bon mot, c'est rage, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le fait que le gouvernement Trudeau a réglé cette histoire-là une fois pour toutes. Puis il y a eu une suite à toute cette histoire-là.
Bien sûr, une suite. Omar Khadr, aujourd'hui, demande le droit de revoir sa famille sans restriction. Famille qui, on le rappelle, avait été la source de ses problèmes.
Mais ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Fait que là, il est libéré sous condition, c'est ça?
Premièrement, oui, il est libéré sous condition. Puis il y a des restrictions au niveau de sa famille.
Mais comment il peut avoir une libération conditionnelle si on a décidé qu'il n'était pas... Il y a quelque chose... Il y a un bout qui me manque. Là,
C'est du droit pénal. C'est toutes des affaires de procédure. Puis ça va traîner encore longtemps, cette histoire-là. Okay. Probablement toute sa vie, en fait. Je pense qu'il va toujours être de près ou de loin impliqué dans une procédure quelconque. Là. Du moins, je vois pas à court terme comment est-ce que lui va...
Son argent va être dépensé sur les avocats. C'est...
Ce serait pas surprenant. Quoique son avocat a l'air de faire pas mal de pro bono, là, on verra s'il se paye. Là. Mais toujours est-il que je sais pas, en fait, si le gouvernement du Canada va se battre sur cette question-là. Parce que le gouvernement Trudeau, à notre avis, puis c'est la position qu'on avait défendue, avait pris la bonne décision de régler hors cours. Parce que vraisemblablement, il aurait perdu, ça aurait coûté encore plus cher, puis ça aurait surtout créé de la jurisprudence. Et de la jurisprudence ou des questions comme celle-là,
c'est dangereux.
On préfère en avoir le moins possible. Donc, régler hors cours était somme toute une bonne décision. Ça aurait sans doute dû être fait avant qu'il y ait trois jugements de la Cour suprême en sa faveur. Parce qu'il y a déjà de la jurisprudence là-dessus. Mais là, la question, c'est de savoir, est-ce que maintenant que ça s'est fait, est-ce que le gouvernement Trudeau va considérer que de lever toutes les autres formes de restrictions sur sa liberté, entre autres celle de voir sa famille, s'il va trop loin? Considérant le backlash qu'il y a eu sur la question du 10,4 millions de dédommagement, est-ce que le gouvernement Trudeau va vouloir se mouiller là-dessus? Ça va être intéressant.
Ça va se décider en cours, de toute façon. Right?
C'est que le gouvernement Trudeau pourrait décider d'intervenir et de lever les restrictions hors cours, ou il peut se battre, puis aller en cours. C'est intéressant, ça devrait, on devrait en savoir plus au courant de l'automne.
Mais c'est parce que d'un côté, on peut, c'est un peu hypocrite. Quand tu lui donnes 10,5 millions pour dire que t'as tort, puis après ça, tu lui dis, mais non, mais t'as quand même pas le droit de parler à ta sœur.
Ben, c'est ça, mais c'est qu'il, on manque d'air, on connaît pas nécessairement ses motivations internes. Mmh. Est-ce qu'il va se servir de cette décision en cours-là pour justifier d'autres demandes qui seraient là plus extravagantes? On sait pas. On sait où ça commence, mais pas où ça finit.
Puis peut-être pour expliquer, c'est parce que sa sœur et sa mère sont réputées être des extrémistes islamistes.
Pas des gens recommandables.
Exactement, d'après ce qu'on entend. Puis lui, sa défense à Omer Khadr, ce qu'il dit, c'est que il n'est plus un enfant de 12 ans puis qu'il est capable de penser pour lui-même. Ça a été un peu ça, sa défense.
Qui est une position raisonnable.
Qui est très raisonnable, même. Fait que, mais le problème que les gens ont, je pense, c'est qu'ils font pas confiance. Il y a un manque de confiance. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On ne sait pas. Pourquoi les gens ne font pas confiance? On doit-tu le croire sur parole? Beaucoup de gens pensent que non. Moi honnêtement, personnellement, je sais même pas. C'est tellement une situation bizarre comme... Comment tu peux aller dans la tête de Omer Khadr puis savoir si oui ou non il pense vraiment ça, puis es-tu facilement convaincable par sa mère puis sa sœur? Mais en même temps, je me mets dans sa poche puis je me dirais pas dans sa poche, je me mets dans ses souliers puis je me dis, tiens, moi aussi, il me semble, j'aimerais ça voir mes parents sans voir le gouvernement à côté de moi chaque fois.
C'est un petit peu ça que je me dis aussi, c'est indépendamment de la famille qu'on a, ça reste notre famille, puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont des parents exécrable. Vraiment, là, désagréable au max.
Ah ouais. J'ai une couple de tantes, moi, que je pourrais éliminer.
Là. Oui, mais ils veulent quand même avoir l'occasion de les voir. Fait, ouais. parce qu'on est quand même... Plus on vieillit, plus on réalise qu'on est, on n'est pas une société vraiment individualiste. On est une société familiale.
On est fait pour vivre en tribu.
On est en petite tribu, là, puis on est prêt à faire beaucoup de sacrifices au nom de notre famille.
Ouais.
Je comprends sa motivation, surtout depuis le temps qu'il ne l'a pas vu. On peut s'entendre que ça reste sa mère.
Ouais.
Même si sa mère, à la limite, a des visions dangereuses sur l'islam, ben, je ne sens pas qu'il y ait une réponse satisfaisante à cette question-là.
Non.
C'est pour ça que je demeure ouvert, mais je vais être curieux de voir ce que Gouin Matoudo va
pouvoir faire là-dessus. Puis je suis content que ce n'est pas moi qui va avoir besoin de prendre la décision. Mais,
puis que tu ne seras pas soumis à une élection après.
Oui, puis que je ne serai pas soumis à une élection après, surtout, parce qu'il va se faire juger, là, peu importe ce qu'il décide. C'est le genre de situation où tu décides d'un bord, la moitié du monde va être avec toi, puis l'autre moitié va être contre toi.
Ah, c'est très polarisant. C'est très, très polarisant.
Puis les gens, en général, moi, ce que je remarque, c'est qu'ils sont très un ou l'autre. Les gens comme nous autres qui sont comme ambivalents, il y en a peut-être un peu moins.
Mais c'est que c'est satisfaisant à un moment donné de classer une idée.
Ah, ben oui,
tu dis facile. Ah bon, ça c'est réglé là, c'est mon opinion là-dessus.
C'est intellectuellement, c'est la façon la plus facile de te positionner. T'as pas besoin d'y réfléchir trop, t'as pas besoin de trop dealer avec le conflit que tu pourrais avoir. Fait que non, je me mets de ce côté-là puis c'est fini.
Parlons de Justin Trudeau. On entend beaucoup de choses très négatives à son endroit, puis en grande partie, je les partage. Je ne suis pas spécialement satisfait de l'administration Trudeau. Mais n'en demeure pas moins que le Canada se porte bien. T'sais, à date, là, on n'est pas au bord du gouffre. Les choses vont relativement bien au Canada. Bon. Mais ça n'enlève pas que le gouvernement Trudeau a eu, à mon avis, des écueils de leadership sur plusieurs questions. Et là, il fallait qu'on se restreigne parce qu'on avait juste 30 minutes.
Moi, je suis déçu de l'histoire pour les pipelines, les pipelines de les oléoducs.
Ouais.
Je suis déçu pour la réforme électorale. Ça, honnêtement, je vais avoir de la difficulté à l'avaler avant que j'aille voter la prochaine fois. Dans sa plateforme, j'ai beaucoup de difficultés avec la façon qu'il traite en ce moment de la légalisation de la marijuana.
C'est le chaos pur et simple.
Ça n'a aucun bon sens comment ils sont en train de planifier
ça. Toutes les provinces demandent de l'information, il n'y en a pas. On met une date limite, les policiers disent qu'ils ne seront pas prêts à policer, au fond, cette affaire-là. Premièrement, là, ça fonctionne vraiment pas. Puis je trouvais, en fait, que dans la dernière campagne électorale, Thomas Mulcair avait une bonne position. Il disait, légaliser, c'est compliqué. Décriminaliser, ça peut être très, ça peut être très facile. Ben on fait ça du jour au lendemain. De même. Oui. Facile, facile, facile.
Puis en fait, c'est tout ce qu'on a de besoin, c'est de le décriminaliser. Oui. Ça serait suffisant.
Le problème, c'est que le gouvernement veut faire beaucoup d'argent avec cette histoire-là.
C'est clair. Ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé au Colorado, puis on dit,
Et le problème, c'est que le gouvernement, en ce moment, veut tellement mettre de restrictions que ça va pas réussir à concurrencer le marché noir. Parce que quand on dit marché noir, là, moi, j'aime pas le terme. C'est un marché. Ouais. Il y a des consommateurs, il y a des fournisseurs. C'est juste qu'il n'y a pas... Il n'y a pas le sceau divin du gouvernement.
Ouais.
Mais il y a toutes les caractéristiques...
C'est... On s'entend que c'est parce qu'il ne paye pas de taxes.
C'est ça.
On mais s'entend,
a...
là.
Mais il y a toutes les caractéristiques d'un marché économique. Puis il fonctionne très bien et il torche le gouvernement. Quand on regarde là, les moutures actuelles, là, on pourrait aller acheter du pot dans des équivalents de la SAQ. Il y a l'Ontario qui a annoncé que la LCBO offrirait du pot. Comme c'est un produit de luxe qu'on magasinerait comme un bon vin. Non, non. Maintenant, là, les dealers de drogue font des livraisons à domicile. Tu peux les texter. Ils viennent 5 minutes après. Tout ton stock, ça finit là. Jamais les gens vont se déplacer pour savourer des... Non. Présentement, le gouvernement est en train de saboter ce qui aurait pu être une excellente idée.
Savourer du pot. Fais-moi rire. Ils veulent pas qu'on fasse de café. Ils veulent pas... Écoute, give me a break. Là. On pourrait se positionner comme étant les Amsterdam de l'Amérique du Nord. Puis ça, avec tout le revenu que ça pourrait générer en point de vue de tourisme, etc. Mais non, on va quand même pas rendre ces choses-là faisables. Écoute, je sais pas si tu te souviens, il y a une couple de mois, là, cet été, il y avait ouvert un cannabis culture en bas de la rue là, d'où j'habite. Puis pendant 24 heures, ils ont vendu du pot là, jusqu'à temps qu'il y ait la descente policière. Il y avait une file de monde.
Oui, c'est un immense marché.
Il y avait une file de monde dehors. Ça faisait le tour du bloc pour aller s'acheter du pot. Fait qu'on peut-tu arrêter 5 minutes, là, puis se dire, OK, je pense que la population, la grande majorité, il n'y a plus trop de tabous comme c'était à un moment donné sur le pot. Là, je pense qu'en tant que citoyen, on a décidé que, OK, le pot, c'était quand même... T'sais, c'est pas de l'héroïne. En général, tu mourras pas d'une overdose de pot.
Moi, il faut essayer fort.
Je sais pas combien il faudrait que tu en fumes pour mourir d'une overdose de pot, mais bon. Fait que je comprends pas. Ils sont en train de se compliquer la vie pour absolument rien. Puis c'était un dossier important. Ça a été majeur sur leur plateforme électorale. Puis là, ils sont en train de se gourer comme il faut. Là. Puis ils ont eu quoi, 2 ans là, pour le monter? Oh oui, c'est give me a break.
C'est amateur.
Ça n'a aucun sens.
Voici pourquoi c'est une bonne idée.
C'est amateur. Mais oui, mais quand tu te mets du monde comme Mélanie Joly, là, qui est ministre de ci pis ça, puis regarde. Fait que là, vous pourrez pas dire qu'on est payé par les libéraux. Là. Je pense qu'on vient de le prouver.
D'ailleurs, ça revenait souvent. Les gens pensent qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à nous payer, mais non.
Non, on n'est toujours pas payé.
C'est bénévole.
Mais si vous voulez nous payer, écrivez-moi gabriel@quebecois.ca. On va le prendre, l'argent. On prend PayPal. Inquiétez-vous pas.
Mais voici... Je trouve qu'on n'a pas tant eu la conversation sur la légalisation du pot. Les médias en parlent comme c'est un fait accompli, mais je trouve pas qu'on a pu challenger les idées. Non. Voici, moi, pourquoi je pense que les arguments... On va refaire un petit portrait vite fait, là. Les bons arguments, pour et contre. Argument pour. C'est fait correctement, ça va tuer le marché noir. Puis le marché noir, là, pourquoi c'est pas une bonne idée? C'est pas parce que c'est un marché noir, c'est parce que le crime organisé s'en sert pour se financer.
Puis pas juste ça. Il peut avoir, d'un point de vue de produit, il pourrait avoir des problèmes de contrôle de qualité, il pourrait avoir des problèmes...
Oui, tu veux que ça se fasse en surface.
Oui, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que si tu as du pot de mauvaise qualité, mais là, on va mettre quelque chose avec. Puis là, c'est dangereux en ce moment avec toute l'histoire de fentanyl qui est sortie avec la crise d'opioïdes. Comment tu dis ça? La crise de...
D'opioïdes,
tu sais quoi? Oui, fait qu'avec tous les problèmes qui découlent de la crise d'opioïdes, je pense que c'est important de s'assurer que ta source de drogue, elle est bonne. Puis on s'entend, là, la drogue, ça va tout le temps exister. Les gens vont fumer du pot, là, qu'on ait un règlement pour ou contre. Ouais. Là, c'est pas, les gens vont le faire.
Puis les sociétés humaines consomment des psychédéliques depuis au moins 15-20 000 ans. Là, plus que ça, même
tu
encore.
Peux aller, tu peux aller, aller voir un chaman dans l'Amérique du Sud puis boire de l'ayahuasca ou que tu vas vomir ta vie après. puis voir des images. Écoute, ça fait partie de la culture humaine depuis toujours. On mange des champignons, on fait ci, on fait ça.
La prohibition, ça ne fonctionne pas. Oui. Et ça crée des criminels.
C'est exactement
ça. Ça crée des criminels, parce que quand une personne qui est habituée à dealer en dehors de la loi et des marchés traditionnels, ben, généralement, on peut présumer qu'ils n'auront pas trop d'hésitation à le faire sur d'autres éléments.
Bien, c'est ça.
Et c'est comme ça, en fait, qu'aux États-Unis, ça s'était assez bien documenté. Tous les criminels qu'on a vus apparaître ont fait leur classe durant la prohibition de l'alcool dans les années 20. Mm. Ça a été un camp d'entraînement pour de la criminalité. Et quand on a remis l'alcool légal, ben, ils se sont dirigés vers d'autres industries plus lucratives encore. Mais là, il y avait le training pour pouvoir gérer des opérations de grande envergure. Donc, le pot, là, le but, ça devrait être de casser le monopole du crime organisé sur les revenus de ce machin-là. Il faut que ce soit un marché compétitif sur lequel les gens peuvent rivaliser pour avoir les meilleurs produits au meilleur prix. Comme n'importe quoi. Que ce soit un joint de pot ou vos drumsticks ou des petites côtelettes de porc, c'est la même affaire. Le contre-argument à ça, par contre, c'est les médecins et les psychiatres qui disent que c'est des substances qui sont dangereuses, particulièrement chez les jeunes de moins de 25 ans, parce que le cerveau n'est pas encore pleinement formé.
Ah oui, mais ça, c'est la même affaire que la nicotine, la même affaire que l'alcool. Fait que faites-moi pas rire, s'il te plaît.
C'est-à-dire que, d'une part, ils ont raison. C'est vrai que c'est une substance qui peut... pas mal de recherches qui montrent que ça peut déclencher une schizophrénie paranoïaque des gens qui ont une prédisposition génétique, on le sait. Mais la fin, c'est qu'il y a très peu de recherches sur la marijuana. Très, très peu. En comparaison de la cigarette, là, on sait pas grand-chose.
Oui, parce que pour faire de la recherche sur la drogue, ça te prend des licences par-dessus la tête. Il faut que tu ailles voir des permissions du gouvernement. C'est extrêmement difficile.
Faire ça, c'est l'argument 2. Plus de recherches, on peut pas le faire si c'est illégal.
Ben,
on veut de la recherche. Puis là, À ma connaissance, là, la plupart des arguments contre sont de nature ensuite qui sont moraux. On ne devrait pas consommer de drogue, c'est pas bon pour vous autres. Mais plus tu rends quelque chose edgy, plus ça va attirer des jeunes.
C'est clair.
c'est un peu écrit dans le ciel. Et surtout, ça permettrait de faire plus d'éducation. Si un produit est légal, disponible, le but c'est de responsabiliser les gens, de responsabiliser l'individu. De ne pas prendre des gens pour des caves. Tu prends un jeune là, de 16-17 ans qui pourrait être tenté de se passer un joint à un party le samedi soir. Mais si tu fais juste dire « prends-en pas », le jeune va dire « pourquoi ?» Puis si tu y réponds « parce que je le dis
», il va dire « fuck you, je le prends mon joint ».
Et voilà. Il ne faut pas traiter les gens comme des caves. Il faut pouvoir parler des arguments scientifiques qui sont derrière ça, puis avoir une conversation autour de la consommation de drogue.
Ben oui, comme on a fait avec la cigarette.
La
cigarette, à un moment donné, écoute, on le sait, il y avait une époque où les médecins te donnaient des cigarettes dans ton lit d'hôpital. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas une bonne affaire.
La consommation de cigarettes est en diminution dans l'ensemble de la
population. Elle est au plus bas qu'elle a jamais été. Là, en fait.
C'est... Les jeunes consomment quand même pas mal de cigarettes, mais généralement, ils vont réussir à arrêter en vieillissant. Ouais. Ils ont comme une phase, là, ils donnent ça, parce que dans la population, dans l'ensemble, le cancer de fumeur diminue.
Ouais. Puis moi, je fais partie de cette statistique-là, laisse-moi te dire, des fois, je m'ennuie.
Félicitations.
C'est top.
C'est sûr, c'est difficile, parce que c'est une drogue, ça vient modifier l'équilibre biochimique de ton cerveau.
C'est incroyable.
Un peu comme le chocolat. Hein? un petit peu plus rock que le chocolat.
Fait que, à part de le gouvernement Trudeau, on a aussi parlé du salaire minimum. Puis là, prenant une position un peu pas courante, je te dis, c'est une position qu'on n'entend pas souvent dans les médias, Charles proposait le salaire minimum à 0$.
0$, rien de moins. Mais c'est 0$. C'est plus par principe. Parce que.
Il n'y a personne qui va travailler.
Très peu de gens, du moins, moi, personne n'accepterait de travailler à 0$.
Ouais, c'est pas vrai. Il y a des bénévoles.
Hein.
Beaucoup d'étudiants sont
bénévoles.
Ouais, moi, j'ai déjà été bénévole pour plein de choses. Puis j'ai probablement que je serai bénévole pour plein d'autres choses aussi.
Il y a plein d'étudiants qui l'apprennent avec grande surprise en sortant de l'université. Je pense que c'est l'Association des étudiants en enseignement ou les étudiants au doctorat en psychologie. qui veulent faire rémunérer leur stage, parce que présentement, ils sont presque pas payés, voire pas du tout. Ouais. Il y a déjà des gens qui travaillent pour rien, parce qu'ils veulent de l'expérience. Ouais. Bon.
Moi, honnêtement, quand on embauche nos stagiaires au travail, moi, je trouve ça correct qu'on les paye, là, parce qu'on est quand même un organisme qui fonctionne à profit, puis que, tu sais, moi, dans mon travail, notre compagnie, on a vraiment des profits énormes.
Oui, mais ça vous regarde.
Je trouve ça plate, là, de payer quelqu'un 0$.
Oui, mais ça vous regarde. Si la compagnie choisit mais c'est clair de payer ses employés un certain prix, ben tant mieux pour eux autres.
On les paye pas à plein salaire non plus, là, s'entend.
Mais c'est pas au gouvernement de dire comment les gens devraient organiser leur travail. S'il y a une relation de gré à gré entre un employeur puis un employé, ben qu'est-ce que le gouvernement vient foutre là? Bon. Moi, c'est mon opinion là-dessus, puis je pense qu'il y a pas mal de littérature qui va dans ce sens-là. Et l'élément déclencheur était évidemment l'étude de la ville de Seattle qui avait augmenté le salaire minimum à 15$.
Mm-hmm.
On va suivre ça parce qu'au Canada, il y a plusieurs provinces qui ont annoncé leur volonté de mettre un salaire à 15$ de l'heure. On va voir ce que ça va donner, mais à date, ce qui s'est passé à Seattle était négatif. Ça le nuit aux gens qu'on voulait aider. Les travailleurs peu qualifiés et les jeunes. C'est-à-dire des gens qui ont des compétences limitées, donc qui n'ont pas nécessairement un gros levier de négociation pour avoir un haut revenu, voire carrément un emploi tout court. Et des jeunes qui ont, par définition, peu d'expérience. Souvent, ce qu'ils peuvent mettre de l'avant, c'est de dire « Je suis prêt à travailler pour moins cher, donne-moi une chance.
Mm-hmm. »
Alors là, une personne... Et puis, ça, c'est un même argument aussi pour la loi sur l'équité salariale. C'est probablement une des lois les plus sexistes à ma connaissance. Parce que, imagine, là, la pire personne ever qui juge un employé potentiel parce que, mettons, c'est une femme. Et, comment ils disent maintenant? Un misogyne, sexiste, name it. Bon. Ben, cette personne-là, en ce moment, elle ne subit aucun coup pour ne pas embaucher une femme. Fait qu'elle peut exercer ses préjugés impunément. Elle va embaucher la personne à côté. La seule façon d'imposer un coût à cette personne-là, puis de dire, si tu veux exercer ton privilège, ça va te si tu veux exercer tes préjugés, ça va te coûter de l'argent, c'est de permettre aux gens de travailler pour moins. C'est le seul mécanisme qui fonctionne raisonnablement bien. S'il n'y a aucune autre raison de préférer un homme dans un domaine ou une femme dans un domaine, puis que la seule raison pour laquelle il y a une disparité, c'est du sexisme, parce que l'employeur considère qu'un des deux sexes est inférieur à l'autre. C'est purement motivé par de la discrimination. C'est pas une loi qui va changer ça. Présentement, la loi protège ces gens-là parce qu'ils n'ont pas assumé le coup. Si la compagnie à côté dit « ben moi, je vais t'embaucher », la compagnie à côté va pouvoir réaliser des économies puis être plus compétitive que l'autre. C'est toujours ça, l'histoire. Une compagnie qui ne veut pas embaucher de jeunes, parce qu'ils sont âgistes ou peu importe, ben, ils se privent d'avoir potentiellement des gens qui sont motivés puis qui sont prêts à travailler pour un peu moins cher, pour avoir de l'expérience. C'est ça, l'argument. Je comprends qu'il est contre-intuitif, puis je comprends que dans un monde idéal, on aimerait ça que tout soit beau, tout soit égal, mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça. Puis présentement, indépendamment de la loi, il y a quand même du monde qui vont discriminer. Ça va être intéressant de voir ce que ça va ressortir à la commission sur le racisme systémique. Mais moi, je trouve que les lois du travail, présentement, échouent dans ce qu'elles devraient chercher à faire, c'est-à-dire imposer un coût aux gens qui prennent des décisions qu'on juge inacceptables.
Mm-hmm.
Présentement, les gens qui prennent ces décisions-là n'ont aucun coût économique pour discriminer.
Je comprends ton point, mais moi, ce qui m'inquiéterait de ça, c'est qu'en ce moment... La vision qu'on a du sexisme, du féminisme et de l'équité, elle n'est pas bonne. Puis j'ai l'impression que ça irait pas, ça serait pas utilisé de la bonne façon. Parce que on le sait, là. T'sais, quand ça peut nous amener vers justement ce qu'on a parlé de dans la 8e épisode, qui était l'écho-chambre de Google, puis le fameux manifeste de James Damore. Qu'il y a comme une croyance populaire en ce moment que les femmes sont complètement désavantagées, qu'ils ont pas leur place dans le marché, qu'ils sont moins payées, etc., etc. Mais en ayant ça, ils pourraient utiliser cette l'incitatif monétaire à cette fin-là, et non pas comme tu penses. On l'a vu, parce que quand on avait notre invitée Mélanie qui est venue parler de sa vision du sexisme, écoute, on a exposé combien d'études, écoute, sur le site web, en plus on les a mis, là, toutes nos références, puis elle est restée à point ferme sur son opinion que non, les femmes ne sont pas égales, puis les hommes sont mieux traités, puis même si on a clairement démontré que ce n'était pas le cas.
Mais le point, c'est que présentement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tant intéressés par avoir de quoi qui marche. Ils préfèrent avoir de quoi qui sonne bien.
Ouais. Ouais.
Et ça devient un peu une forme de prophétie auto-réalisante, où on cherche tellement de la discrimination qu'on en trouve. Mais il n'y en a pas nécessairement de prime abord. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux en venir.
Oui.
Mettons, si on prend le cas là, du fameux wage gap, le déséquilibre salarial entre les hommes et les femmes, il n'y a pas un économiste du travail qui prend ça au sérieux. Il y a un écart. Il existe, mais il est attribuable à des décisions que les femmes prennent, qui font des choix différents. Plus de travail à temps partiel, vont dans des domaines qui sont moins bien rémunérés. Ce sont des choix personnels.
Ouais.
Les femmes ont moins tendance à être prêtes à se déplacer sur de longues distances pour aller travailler, moins disposées à aller travailler à l'extérieur, dans des emplois risqués. C'est tous des éléments qui rentrent en ligne de compte. Puis, évidemment, il y a des exceptions.
Mais un bon exemple de ça, là, à un moment donné, le journal Fugue de Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas le Fugue, c'est un journal mensuel qui sort, qui a été publié par la communauté gay de Montréal. Ils ont fait une étude sur les écarts salariaux parmi certains groupes sociologiques, on va dire. Ce qui est surprenant là-dedans, c'est qu'ils ont divisé les gens en 4 catégories. Les femmes hétéros, les femmes lesbiennes, les hommes gays et les hommes hétéros. Puis le ranking des moyennes de salaire allait comme suit. Au bas, on avait les lesbiennes. Puis le pourquoi que les lesbiennes gagnaient moins d'argent que toutes les autres, c'est parce qu'ils travaillaient quasiment toutes dans des jobs de genre de travail social, d'aide aux personnes dans le besoin. Ils choisissent des jobs qui payent quasiment rien. Fait qu'ils se retrouvaient dans le bas de l'échelle. Après ça, c'était les femmes hétérosexuelles, parce que toutes les raisons que tu viens de nommer. Ensuite, en haut des femmes hétérosexuelles, c'était les hommes hétérosexuels, qu'eux gagnaient plus à cause de toutes les raisons qu'on a déjà nommées. Mais la surprise dans cette étude-là, puis je doute à quel point c'est valide comme étude scientifique, mais c'est intéressant parce qu'ils ont c'était quand même un sondage sur quelques milliers de personnes. Au top, il y avait les hommes gays qui gagnaient plus que la moyenne des hommes hétérosexuels. Puis la raison qu'ils donnaient pour ça, c'est parce que justement, la plupart n'ont pas d'enfants, ils se concentrent sur la carrière, ils travaillent fort, ils mettent l'emphase sur des jobs en finance, sur des jobs d'avocat, de médecin, il y en a vraiment beaucoup de ce côté-là. Plus que la proportion est vraiment plus grande. Fait que, il y a des raisons derrière les écarts salariaux. On ne peut pas crier à la misogynie et à la discrimination juste parce qu'il y a un écart. Il faut arrêter de faire ça.
Ben, enfin, moi, en termes d'études scientifiques, j'en ai une qui va sans doute beaucoup t'intéresser. Ça varie beaucoup entre les pays. Les pays qui sont les plus pauvres sont ceux où on retrouve le plus de femmes dans des domaines très directement associés aux hommes.
Oui.
Parce que les femmes font la décision la plus rationnelle d'aller mettre de l'argent sur la table. Si en Inde, ce qui paye le plus, c'est d'être ingénieur informatique, bien, les femmes vont y aller parce que c'est leur seule option. Ils n'ont pas le luxe de choisir un domaine qui les intéresse profondément. C'est pas leur passion. Ils vont dire, je fais ça pour travailler, pour nourrir ma famille. J'ai pas le choix, je fais ça. Quand tu vas dans les pays occidentaux, qui sont généralement plus riches, les femmes ont le luxe de choisir ce qui les intéresse. Et les femmes vont en or. Vont dans les sciences sociales, vont en littérature, vont dans tous ces domaines-là qui sont super intéressants, mais c'est pas ingénierie pétrochimique. Hein? C'est pas ça. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir un écart. Mais on va quand même pas commencer à punir les femmes pour aller dans ce dans quoi elles sont intéressées. Parce que oui, les hommes et les femmes ont des intérêts qui sont différents. En moyenne, il y a des différences très importantes. N'en déplaise à notre invitée Mélanie, ces différences-là sont assez claires.
Il y a peut-être un truc... Il y a peut-être une chose que Mélanie avait raison, par contre. C'est possible que dans un environnement comme, par exemple, l'informatique ou l'ingénierie, que c'est un environnement qui est très masculin, très mâle, qu'il y a peut-être des façons de faire qui pourraient rendre certaines femmes mal à l'aise dans ces environnements-là. Puis peut-être qu'on peut regarder comment on structure ces choses-là pour que ça soit plus accueillant.
Mais ça, c'est
plus
le défi des ressources humaines.
Mais c'est exact. C'est le défi des ressources humaines. Puis je pense pas que les gars qui sont dans ces milieux-là, c'est pas exprès, là. Ils font pas ça parce qu'ils veulent pas de femmes dans le décor. Moi, je le vois, là. À chaque fois qu'on embauche quelqu'un de nouveau pour faire notre équipe, la première question qui est posée par les gars, c'est une fille. Parce qu'on sait qu'on en a besoin. Puis ça change la dynamique complètement. Mais Caroline, il applique pas. Fait que, tu sais, non, c'est pas une fille, c'est un autre gars. Sausage party. Here we go.
On aura sans doute l'occasion de revenir plus en détail sur les revendications des groupes féministes comme le Conseil du statut de la femme, ainsi que plusieurs études universitaires qui sont publiées. À chaque année,
j'ai pas peur.
C'est les Olympiques de la victimisation.
On va avoir en masse de temps pour en parler. Par contre, l'épisode qui a suscité le plus de téléchargements et qui a été le plus populaire, ça a été l'épisode qu'on a eu sur le français. Puis ça a énervé du monde.
Il n'avait presque pas parlé dans cet épisode-là. C'est surtout avec notre invité.
Oui, on avait Diane, qui était notre première correspondante, qui va sûrement refaire surface un jour. C'était le fun avec Diane. Puis c'est d'actualité, parce qu'il se passe des choses en ce moment autour du français. D'ailleurs, le PQ... ils essayent désespérément de remonter dans les sondages. Puis une des solutions qu'ils envisagent, parce que la fin de semaine passée, ils ont eu la confirmation la confirmation, ils ont voté sur la confiance qu'ils ont pour Jean-François Lisée, qui, en passant, a eu, c'était quoi, 92% du vote, là? J'ai été surpris de voir...
Il était très près du succès historique de Pauline Marois. Où ça l'a mené, d'ailleurs.
Ben oui, c'est ça veut rien dire, là. C'est pas parce que tu cries à ta base puis que ta base t'aime que tu vas nécessairement avancer nulle part. Mais moi, ce qui m'a... À chaque fois, c'est la même cassette. À toutes les maudites fois qu'il y en a un nouveau, ils nous répètent les mêmes affaires. Ils ramènent le problème des anglophones, ils ramènent la langue sur le tapis, puis ils ramènent la souveraineté. Ça, ils ne l'ont pas fait encore, là, mais je m'attends là, que ça va sortir. D'une journée à l'autre, là, ils vont en parler. Puis je suis un petit peu... J'en reviens pas. Il y a 5 cégeps anglophones dans le Québec. Puis là, on s'entend que ce n'est pas une majorité. Là. C'est une petite... Puis ils sont pleins à craquer. Je le sais parce que j'ai fait un AEC à Dawson. Je sais qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Il y a énormément de francophones qui s'en vont dans ces cégeps-là. À Dawson, dans les cours, on parlait souvent en français. Dans les salles, dans les corridors, on parlait en français. Tu entends du français tout le temps. Oui, les cours sont donnés en anglais. Là, c'est un cégep anglophone, après tout. Mais c'est pas juste des anglophones dans ces cégeps-là. OK? Puis, j'en reviens pas que M. Lisée essaye d'enlever les fonds à ces écoles-là, puis d'essayer d'empêcher les gens d'aller étudier en anglais en post-secondaire. Ça me scie les jambes. Je comprends pas comment on peut enlever le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent avec leur éducation, ça m'énerve.
Je pense que Lisée a réussi à tempérer un petit peu ce qui aurait pu être une position très difficile à tenir face à la CAQ puis au Parti libéral.
Absolument.
Mais c'est sûr que le PQ a toujours la tendance par rapport à la langue. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui ne sont pas d'accord avec moi sur cette question-là, mais pour moi, une langue, ça ne se défend pas avec une loi.
Non.
Ça se défend avec... des gens. Parce que ce qui arrive quand tu fais une loi, c'est que tu te déresponsabilises de la tâche. Tu dis, ah, quelqu'un d'autre va s'en occuper. La loi 101, à mon avis, elle a surtout affaibli la langue française. C'est une position un petit peu qu'on n'entend pas souvent, puis je serais ravi d'en débattre avec nos auditeurs, mais pour moi, l'espèce d'obsession compulsive du PQ, puis dans une moindre mesure, le Parti libéral, avec la langue, à mon avis, ça a surtout affaibli notre position, ne serait-ce que dans le Canada. Le but, c'est de laisser les gens libres. Et si les gens prennent en charge eux-mêmes la défense de leur langue parce qu'ils y tiennent, ben c'est ça. C'est pour ça que la langue, elle va survivre. C'est pas parce qu'il y a une loi quelque part dans un building, écrite sur un petit bout de papier, qui dit « Ouais, ouais, faut que vous parliez français, guys! » que les gens vont être fiers de leur langue puis de leur culture puis qu'ils vont la célébrer. Tu crées pas de l'appartenance culturelle avec un texte de loi. On voit non. Les gens, ils aiment pas ça quand je parle de droit parce que c'est plate. Mais c'est ça, un texte de loi, ça te dit pas comment tu devrais vivre. Ça te donne pas tes valeurs. Mmh.
Puis là, le problème, c'est qu'on a cette loi-là, faut qu'on vive avec. Puis, en quelque part, on a peut-être besoin de l'amender. Mais moi,
Moi, mon but, c'est de laisser les gens libres.
Oui.
Est-ce que les gens accordent de la valeur à la langue française? Si la réponse est oui, on n'a pas besoin de cette loi-là.
T'as juste besoin de te tourner de bord puis de regarder alentour. Oui, le monde accorde de la valeur à la langue française. Il y a toute une province, on est 7 millions au Québec, mais tous les francophones du Québec, je pense pas qu'il y en a un qui pense que sa langue, ça vaut pas de la merde. OK? C'est pas vrai, là.
Puis,
le premier, en passant.
Tu parlais de Dawson. J'ai plusieurs amis qui sont allés étudier là-bas il y a quelques années quand on choisissait nos cégeps. Je leur demandais pourquoi. Il me disait, mais à l'université, c'est à McGill puis à Concordia que les programmes qui m'intéressent sont les mieux enseignés.
Ouais.
Alors là, eux me disaient, faire la transition du français à l'anglais leur apparaissait beaucoup plus facile de secondaire 5 à cégep première année que de cégep deuxième année à université. Et
moi, je peux te le garantir.
Puis c'est sûr.
Moi j'ai étudié... au secondaire, j'ai tout fait mon école secondaire, primaire, tout en français. Je viens d'une famille francophone, j'étais à l'école en français. Puis moi, je suis tombé à l'université en anglais parce que le programme que je voulais, l'université que je voulais, etc., toutes sortes de raisons. J'ai dit, j'allais étudier en anglais. Puis le jour où je suis tombé dans un cours de mathématiques en anglais, j'étais perdu.
Ben, c'est sûr.
J'ai rushé, là.
Faut que tu apprennes une langue.
Parce que la terminologie était tellement différente qu'il y a des... Puis j'étais correct, là. Quand la madame, elle mettait les trucs au tableau puis que je voyais les symboles, j'étais capable de suivre. Mais quand elle me demandait en classe c'était quoi ma réponse, j'étais pas capable de y exprimer verbalement en anglais. Puis à plusieurs reprises, je disais « I could tell you in French, but I don't know what the word is in English. » Fait que, tu sais, je comprends. L'histoire de transition, c'est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Ouais.
Et la recherche mondiale se fait en anglais.
Mais c'est clair.
Ma conjointe a fait sa maîtrise en littérature française. Et elle devait écrire un résumé en anglais. Parce que c'était archivé dans l'université.
Wow.
Mais c'était une maîtrise écrite en français, sur la littérature française. Il y avait quand même un résumé en anglais.
On parle d'une université francophone.
Oui, parce que la recherche mondiale est en anglais et les gens qui vous seraient intéressés à s'informer sur le contenu de cette maîtrise-là, vraisemblablement, vont parler en anglais. Donc, il faut qu'ils sachent à l'avance si ça vaut la peine de faire traduire ce document-là pour eux. C'est pour ça qu'un résumé est là. Si vous voulez que vos recherches soient lues, il faut que ce soit en anglais. Que vous soyez n'importe où dans le monde, la langue commune, c'est l'anglais. Ça, c'est indiscutable. Puis s'il y a des groupes qui luttent contre ça, mais en réalité, ils luttent contre la présence du Québec dans le monde.
Imagine that. La semaine passée, on a parlé des Haïtiens. On a parlé de la situation des demandeurs d'asile.
On a essayé de distinguer...
My God!
On a essayé de distinguer les deux programmes. Asile, demandeur d'immigration, c'est pas la même chose.
Honnêtement, je pensais pas qu'on allait susciter autant de réactions. Je savais qu'il allait avoir une réaction, là. Mais écoute, il y en a eu cette semaine sur notre page web, sur notre page Facebook. Il y a eu des débats fort intéressants. commencer à connaître un petit peu plus les Luc Leclerc de ce monde. Il y en a un autre, David Scott aussi, qui a laissé des commentaires que j'ai trouvé très intéressants. Écoute, on est vraiment contents. On a pris le temps. On les a tous lus, hein. Inquiétez-vous pas.
Ouais, on a tout lu.
On a tout lu. Puis ce que vous voyez pas, c'est que non seulement on les a lus, mais moi puis Charles, on doit s'écrire sur Messenger peut-être 25 fois par jour à discuter de qu'est-ce qui... qu'est-ce qui est écrit sur notre page Facebook. Fait que on l'apprécie et on espère que ça va continuer.
Parce que ultimement, c'est qu'on ait un espace pour discuter. Puis discuter de sujets qui sont peut-être pas nécessairement disponibles dans les médias traditionnels.
Ouais.
La question, par contre, qui est revenue beaucoup sur ce podcast-là, c'était les migrants. Puis je comprends parfaitement les réserves de plusieurs personnes qui pense qu'il va avoir de l'abus, puis ouais. Ça se peut bien qu'il y en ait, mais le point que personnellement je défendais, puis je pense que je l'ai assez bien argumenté, c'était que c'est quoi l'alternative si on n'honore pas le droit international en matière de demandeurs d'asile? C'est que le Canada devient plus une société de droit. Puis la société de droit, là, c'est pas mal la seule affaire qui nous sépare de la barbarie. Ouais. Tu vois, dans un bar, il n'y a pas grand-chose qui sépare les gens d'un groupe pacifique, bien relax, de gens qui se cassent la gueule avec des verres.
Et ça prend rien.
Ça prend rien, là. L'espèce de filtre de la civilisation, là, il est mince. Il est très, très mince. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avant de changer radicalement comment quelque chose fonctionne. Surtout quand il fonctionne assez bien la plupart du temps. Le Canada, par contre, il y a une annonce là, de Immigration Canada aujourd'hui qui a annoncé une vague de déportation. Ça, d'ailleurs,
on rit pas parce que c'est drôle, la déportation. On rit, en fait, parce que la situation est tellement absurde.
Ouais. Puis on vous l'avait dit aussi.
On l'avait prédit. On savait que la plupart n'allaient pas être capables de rester.
Parce que le processus d'immigration est politique. Ouais. Souvent, le ministre d'immigration peut intervenir pour sauver... mettons, une demande d'une personne pour garder leur famille ensemble. Ils vont aller dans les médias, pleurer un max. Les gens vont être émus. Ah, gardez-les, le ministre va intervenir, débloquer le dossier. C'est politique. Demandeur d'asile, ça fonctionne parce que c'est apolitique. Si les politiciens pouvaient se mêler de qui est un demandeur d'asile puis qu'il n'y en ait pas un, ça ne marcherait pas.
Ouais.
Ça fonctionne parce que c'est un processus qui est essentiellement juridique. C'est fondé sur des critères objectifs de droit commun. Ouais. Et les critères, là, ben c'est ça. Est-ce que la personne peut identifier une personne qui menace sa vie ou encore un groupe? C'est pas juste « j'ai peur pour ma vie », là. Qui te menace? Pour quelle raison?
Ouais.
C'est très difficile de se qualifier. Le Canada, de 2004 à 2014, a déporté près de 150 000 personnes. 70% d'entre eux, là, c'était des demandeurs d'asile. Puis les motifs de déportation, c'est commettre un acte criminel, manquer ses délais pour avoir la résidence permanente. Il y a plein de raisons. C'est un processus qui est, somme toute, bien encadré. On l'avait dit dans le podcast, le Canada est un pays difficile dans lequel immigrer.
Ouais.
C'est pas facile. Dans mandat d'asile, là, ils s'essayent. Peut-être que certains ont un bon case, mais a priori, la plupart, c'est des migrants économiques qui sont à leur dernier recours pour pas avoir à retourner en Haïti.
Puis peut-être que dans l'eau, ils vont en trouver quelques-uns qui vont être capables de rester pour X raisons. Puis je pense que ceux-là qui vont rester, on peut être relativement convaincu ou relativement certain qu'ils ont été examinés, ils ont vu des background checks à droite, pas à gauche, puis que ça va être quand même correct. On n'a pas à s'inquiéter.
On va quand même rester vigilant, voir qu'est-ce qui se passe cet automne. Qu'est-ce qui se passe l'hiver prochain?
C'est peut-être pas fini.
On va suivre ça.
C'est pas fini.
Considérant la quantité d'attention qui est sur cet enjeu-là, je doute que les autorités en charge d'immigration commencent à faire n'importe quoi. Du moins, ce n'était pas à leur avantage.
Ouais.
Parce que s'il y a du cafouillage, ça les discréditerait comme jamais.
Puis je pense que c'est important de noter là, que ce soit Trudeau, que ce soit Harper, que ce soit Andrew Scheer, que ce soit Mulcair, qui soit premier ministre.
Pas Elizabeth May, là.
Moi, je l'aime bien, Elizabeth May, mais je pense que... oublie ça, là.
Ouais.
Je pense que il y aurait pas de différence. Là.
Vous voyez qu'on a traité de beaucoup de sujets très variés, très difficiles, très chargés, et ça en 9 épisodes. Alors aujourd'hui, on a fait un peu le survol, puis il y a pas mal de choses qui s'en viennent à l'automne. Comptez sur nous pour en discuter, pour bien chialer, mais de façon éclairée. On vous invite à participer avec nous aux échanges, parce que la conversation, c'est pas juste cute, c'est pas juste la liberté d'expression.
Ouais, en fait, on aimerait ça que ça soit juste, pas juste moi puis Charles. Ouais. On aimerait que ça soit moi, Charles et vous autres.
C'est la conversation, c'est un mécanisme pour trouver des consensus sans se taper sur la gueule.
Exactement.
C'est pour ça que c'est aussi important dans notre société de pouvoir avoir un espace de conversation où on peut vraiment aller au bout de notre idée. Où on peut vraiment là, aller dans les derniers retranchements.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que, bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais toute la culture des safe space, des trigger warnings, c'est tous des éléments qui viennent gréver notre capacité d'avoir une conversation. Parce qu'on n'est pas en mesure d'aller au bout de nos idées. Et c'est important d'aller jusqu'au bout. Parce que sinon, il y a quand même une voix dans nous qui dit « Eh, je suis pas convaincu. » Donc, au courant de l'automne, on va aborder des sujets à chaque semaine. On va essayer aussi d'ajouter un peu plus de contenu écrit.
Mm-hmm.
Et on vous invite évidemment à participer, à réagir. Si vous avez des informations, parce qu'on est juste deux, on ne peut pas tout voir. Si vous voyez des choses qui vous préoccupent, que vous aimeriez qu'on vérifie de plus près, envoyez-les nous. Ça va nous faire plaisir de les regarder.
Oui, vous pouvez même nous les envoyer directement par Facebook, par message sur notre page québécois balado. Vous pouvez nous écrire Charles à québécois.ca, Gabriel à québécois.ca. Et il y a aussi notre site web québécois.ca. Puis une nouveauté cette semaine, je vous l'annonce en grande primeur, on a maintenant une boîte vocale. Alors si vous voulez vous entendre, si vous nous laissez des messages, puis que ça a un petit peu de bon sens, on pourra peut-être même les passer en onde, ou si vous avez des commentaires, des questions, n'importe quoi, ben appelez la boîte vocale, c'est gratuit, 1-888-458-4443, 1-888-458-4443, on va mettre le numéro prochainement sur le site web. Donc, c'est gratuit partout en Amérique du Nord. Fait que même si vous nous écoutez de votre petite maison de vacances en Floride, vous pouvez nous appeler de là-bas aussi.
Quoi qu'en Floride, ce temps-ci, je ne suis pas sûr qu'ils ont le téléphone.
Pas sûr qu'ils ont le téléphone, mais peut-être dans une couple de mois.
Je pense que la construction là-bas va être assez laborieuse.
Fait que sur ça, mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine et on vous dit à la semaine prochaine.
À la revoyure!